L'évangile de ce jour est finalement troublant. Comment commence-t-il lorsque le diable a déjà mis dans le cœur de Judas l'intention de le livrer? L'évangile commence avec Judas. Autrement dit, sur le chemin du Christ se dresse le mal, se dresse cette pierre de scandale. Et nous savons très bien comment nous voulons réagir. Un peu plus tard, Pierre va sortir son épée devant ce mal. Il va se révolter. Il va vouloir éliminer le mal. Il va vouloir le supprimer de son paysage. Et c'est notre désir spontané. Qu'est-ce que produit finalement le mal sur Pierre, le mal en nous, le mal sur tous les disciples? Eh bien, il produit le trouble. Oui, c'est le trouble qui est le plus à craindre du mal. Qu'est-ce que c'est que le trouble? C'est le moment où nous ne savons plus où nous en sommes. Alors certes, oui, le Christ lui-même a connu ce trouble. Maintenant, mon âme est troublée, dit-il. Un trouble connu, mais aussitôt dépassé. Le Christ ne s'y attarde pas. Il ajoute aussitôt, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. » Et alors, la réponse à cet acte de confiance du Père, une voix vient du ciel, « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Le Christ est assuré dans sa démarche, dans son chemin de croix. Le trouble est dissipé. Vivre dans le trouble, la passion pour le Christ, n'aurait eu aucun sens. Et l'acte qu'il pose aujourd'hui de l'Eucharistie, c'est redire non seulement par les paroles, mais aussi par cette liturgie, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et cela prend la forme de ce repas. Voilà comment réagit Jésus. Mais nous le savons bien nous-mêmes, nous nous complaisons parfois dans le trouble. Nous ne nous hâtons pas d'en sortir comme d'un sable mouvement particulièrement périlleux. Le trouble est grave quand on y reste parce que il nous fait oublier la puissance du Père. Il instille en nous ces questions. Et si Dieu n'était pas le plus fort? Et si la foi finalement c'était une béquille pour les faibles, mais on voit qu'elle ne change absolument rien? Et si finalement le mal l'emportait en définitive? Voilà les pensées qui accouchent du trouble. Eh bien, souvenons-nous de l'exemple de Maximilien Kolb. Vous vous souvenez peut-être qu'en pleine guerre, en 1939, quand la Pologne est envahie, il est aussitôt emmené dans un camp de prisonniers. Il va y rester plus de 3 mois. Il aura même une belle amitié avec un des officiers allemands. Il est libéré le 8 décembre. Durant ces 3 mois, la Pologne est à feu et à sang. Son immense cité monastique de Niepokalanów, avec ses plusieurs centaines de moines, jusqu'à 800, est dévasté. Il avait une imprimerie avec des rotatives de dernier modèle. Tout est brisé, anéanti. Il revient à Niepokalanów après sa libération. Il se remet aussitôt à construire, à reconstruire. Il a l'audace de publier un autre numéro du Chevalier de l'Immaculée dans ses moments de ténèbres. Et il continue cette œuvre d'apostolat. On le sait très bien, plus nous allons, plus l'enfer va s'épaissir, plus les ténèbres vont être profondes. Et il sait que ça ne va pas durer, cette liberté provisoire. Il sait que bientôt, il sera arrêté. Alors que fait-il? Il convoque ses frères. Et il leur parle avec la tendresse et la fermeté aussi qui le caractérisaient. Et que leur dit-il? N'oubliez pas l'amour. N'oubliez pas l'amour, c'est-à-dire ne vous troublez pas. Quand le mal prolifère, on oublie notre horizon et on tâche de survivre et on fait n'importe quoi. N'oubliez pas l'amour, leur livre-t-il comme testament. Oui, le démon pêche en nos troubles. Il profite de notre désarroi, de nos fautes d'espérance, voire de nos hésitations. Et il veut nous entraîner à sa suite et pour cela obscurcir l'œil de notre âme. Eh bien, Jésus dit non. Si je suis passé par là avant vous, c'est pour vous arracher au trouble qui vous mène au mal. Et comment fait-il, notre Seigneur? Eh bien, d'abord, il nous donne sa parole. Inlassablement, le Christ, à sa manière, reprend ces mots qu'Isaïe proclamait à son peuple, terrorisé par la prochaine invasion des Babyloniens. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans la confiance et le calme que sera votre force. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Voilà ce que nous dit le Christ à sa façon. La parole nous fait échapper au trouble. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers les prophéties, tout le scénario de la passion va nous être décrit. Aujourd'hui, la trahison de Judas, l'ami qui partageait mon pain, m'a livré à la mort, dit le psaume 40. Puis nous le savons, tout le psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils m'ont donné du vinaigre à boire. Oh, ce n'est pas une espèce de fatalité qui s'accomplit. Pourquoi ces prophéties? Pour nous dire, tout est dans l'ordre. Tout fait partie de cet immense dessein de salut. Rien n'est laissé au hasard. L'immense sagesse de Dieu a tout assumé. D'où l'importance de cette parole, d'où l'importance que nous la pratiquions pour ne pas nous désespérer. De ce fait, le Christ n'est pas obnubilé par la figure de Judas, par les blessures, par les souffrances. Il suit son chemin. Allons plus loin. Pourquoi Jésus a-t-il pu traverser cette passion sans se laisser troubler? Eh bien, il faut le dire aussi, parce que Jésus était totalement détaché de sa vie, totalement détaché de ses aises et même de sa peur de souffrir. Ah, ça a été une grande lutte, la lutte de l'agonie, ça n'a pas été sans difficulté, mais une fois vaincu ce combat, il est dans la liberté intérieure absolue. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur, disait le patriarche Athénagoras. Eh bien, à nous aussi de vivre à la suite du Christ ces détachements. Et j'insisterai peut-être aujourd'hui sur un détachement qu'il nous faut consentir plus particulièrement. Être détaché des circonstances dans lesquelles nous vivons. Combien, à travers la nostalgie d'un monde perdu, d'une chrétienté idéalisée, regrettée, combien tout cela nous freine, nous arrête, nous rend maussade, amer, nous trouble vraiment. Nous avons à vivre le temps où nous sommes, nous avons à l'aimer de charité et ne pas en rêver d'un autre, sinon nous serons terrassés et nous ne servirons de rien pour le royaume. Une dernière chose, le Christ nous laisse aujourd'hui ses propres sentiments, sa propre vision du monde, à travers quoi ? À travers l'Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir l'âme du Christ, c'est recevoir son esprit. L'Eucharistie, il faut le reconnaître, elle est instituée en temps de crise. Et si vous y avez prêté attention, dans la première lecture, l'agneau pascal lui-même est consommé en temps de crise. Les Hébreux sont poursuivis, la mer est devant eux pour les bloquer. Ils prennent cet agneau, ils anticipent d'une certaine manière la victoire du Seigneur sur toutes les circonstances et ils peuvent partir, ils ont ce viatique. L'Eucharistie, c'est un de ces termes aussi qui la caractérise, elle est viatique, c'est-à-dire qu'elle nous aide à franchir le chemin de notre vie, à traverser les ravins de la mort, à traverser toutes ces lois sociétales qui nous blessent si profondément et qui se préparent autour de nous, aussi à traverser cet immense déséquilibre entre le nord et le sud qui fait que si nous avons un peu de sensibilité, eh bien, nous ne pouvons ne pas être bouleversés devant la misère humaine qui est à nos portes. Eh bien, l'Eucharistie nous dit, avec ça, tu seras fort. Avec ça, tu ne te laisseras pas troubler. Oui, si au cœur nous avons l'Eucharistie, eh bien, le Christ sera avec nous. Nous serons dans la paix parce qu'un bout du ciel habitera notre cœur. Alors, nous pourrons recevoir cette même paix que le Christ nous souhaitera à la résurrection.